Pour parler de la technique et surtout de la technologie derrière la diffusion en DAB+, je reçois deux personnes qui ont mis les mains dans le cambouis hertzien. Jean-Marc Courrèges-Sénac, responsable radio SI à Tarbes, spécialiste DAB+ pour l'ARA, Association Régionale des Radios Associatives en Occitanie, et vice-président en charge du CSA auprès du CNRA, la Confédération Nationale des Radios Associatives, et Benoît Berguilhem, responsable DAB+ chez Comequip, société de prestation de diffusion radio FM et DAB+, et donc prestataire pour radio FMR sur le mode de diffusion DAB+. Je précise que FMR n'a obtenu aucune ristourne dans le cadre de cette interview, ni perçu aucun avantage quelconque. Les principaux concurrents de Comequip sont TDF, Towercast et la Coop. CPU, carré, petit, utile. Jean-Marc Courrèges-Sénac, bonjour.
Bonjour Xavier et bonjour Ben, comment allez-vous ?
Très bien, merci. Bonjour tout le monde.
Jean-Marc Courrèges-Sénac, quel a été ton premier souvenir d'auditeur radio qui t'a marqué ?
Alors moi, il y en a plusieurs de toute manière, parce que je pense que la passion de la radio, j'ai toujours eu. Il faut savoir, l'une des premières vidéos, enfin on parle même pas de vidéo parce que je suis âgé, donc l'un des premiers Super 8 que mes parents avaient filmé de moi, oui je suis âgé, l'un des premiers Super 8 en fait, on me voit en train de trifouiller un transistor, un poste de réception, à l'époque c'était les grandes ondes que l'on recevait, et je jette le poste alors que je suis gamin parce que je ne suis pas content parce qu'il n'y a pas suffisamment de radio. Ça c'est, alors ce n'est pas un souvenir parce que j'étais vraiment très très petit lorsque c'est arrivé. Sinon l'un de mes tout premiers souvenirs, c'était déjà d'écouter vers midi Zappy Max avec Qui tout double sur RMC Radio Monte Carlo à l'époque, à la fin des années 70. Et puis toujours à la fin des années 70, c'était les grandes discussions autour des dans les cours de récré à l'école communale où je me trouvais. Et c'était en 79, il y avait eu une première radio pirate qui émettait sur le département des Hautes-Pyrénées, puisque je suis situé dans le département des Hautes-Pyrénées. Cette première radio, c'était une radio pirate qui s'appelait Radio Barberousse, qui par la suite est devenue Radio Barousse, puis Barousse FM, puis Atomique. Donc quand même, c'est la radio que désormais je dirige. Et cette radio-là, déjà, on en parlait à l'époque. Ensuite, les autres souvenirs, c'est la libération de la bande FM avec des radios comme Radio Bigorre, Pyrénées 98, Radio Belladour, Radio Pétroni, Radio Tarbes, ici dans le département des Hautes-Pyrénées. Et puis l'arrivée massive des réseaux énergie, Métropolis, Kiss FM, Chic FM à l'époque, qui est Maximum, bien évidemment, qui était arrivé. Et donc, la FM, l'histoire de la radio, du moins FM, est un tout petit peu quand même en grandes ondes et en ondes moyennes. Ouais, je l'ai suivi depuis mon plus jeune âge.
Assez intensément. Benoît Berguilhem, ton premier souvenir d'auditeur radio qui t'a marqué ?
Alors, le premier souvenir d'auditeur radio, ça a été la première fois où je suis allé dans une radio. Voilà. Donc, mon papa faisait de la radio sur une radio locale associative et je l'ai accompagné. Et cette radio qui existe toujours d'ailleurs sur la région paloise et donc presque une quarantaine d'années. Hein. et donc quand je suis rentré dans ce studio de radio, j'ai vu toutes les installations. Voilà, j'étais vraiment émerveillé par ça. Et puis du coup, j'étais très très petit, hein, vraiment. J'étais vraiment gamin. Et puis, suite à ça, je me suis mis un petit peu à bricoler de mon côté parce que je voulais absolument avoir une radio chez moi, voilà, dans ma chambre. Donc, mon premier studio de radio, je l'ai eu dans ma chambre. Et alors, j'avais pas d'émetteur, forcément. Donc, j'avais un magnéto cassette à l'époque et je m'enregistrais parler. Voilà, j'ai encore des cassettes où je fais des émissions. Et un de mes premiers émetteurs, ou la première fois où j'ai voulu émettre donc par le biais des ondes, ça a été formidable, je me rappelle encore, puisque j'avais, alors c'était pas la bande FM actuelle où j'ai voulu faire le test, c'était sur des fréquences un petit peu plus basses. Donc j'avais pris un talkie-walkie que j'avais démonté, et pour antenne, j'avais subtilisé le tourne-broche du four de mes parents. Voilà. J'ai relié un petit fil dessus, et le tout fixé sur une échasse, les échasses
landaises.
Voilà. Les échasses, voilà. Et j'avais fixé cette échasse au fond du jardin. Et bon, je me suis bien fait gronder, parce qu'effectivement, le tourne-broche avec un fil relié au taki-waki, voilà, je me suis bien fait gronder, mais au final, voilà, ça a été une de mes premières installations. Donc, premier souvenir technique, premier souvenir radio. Après, il y en a une autre, bien évidemment, puisque, bien évidemment, il y a la partie technique, mais il y a aussi la partie animation où ça a été aussi la première radio où j'ai pu m'exprimer, parler, faire des petits reportages sportifs. Voilà, c'était assez sympa le contact avec le public, et puis voilà, déjà c'est déjà.
Et comment tu es venu en fait chez Comme Équipe? Tu as continué en complètement en autodidacte ou bien tu es passé par un cycle spécialisé universitaire ou même technique?
Alors, je pense que quand on fait ce genre de métier, il faut être passionné. Donc, dans mon cas, je peux dire que je suis passionné puisque la radio a toujours fait partie de moi. Voilà, quand je suis en voiture, je zappe tout le temps. Voilà, j'ai toujours besoin, il me faut la radio, toujours, toujours, toujours. Et en fait, mon cursus, il est très simple puisque la partie animation. Radio, je l'ai eu fait un petit peu, mais effectivement, la partie technique, c'est celle qui a pris le pas. Donc, j'ai fait une carrière très intéressante, une carrière militaire au sein des transmissions dans l'armée de terre, où là, eh bien, j'ai pu développer certaines connaissances, donc développer puis agrandir aussi mes connaissances sur le point de vue technique avec. Bien évidemment, la rigueur qui va avec. J'ai appris le Morse aussi, voilà. Le code Morse, la graphie. Et puis, après une carrière de militaire, de presque une vingtaine d'années, je suis parti en reconversion. Et donc, j'ai cherché un stage de reconversion dans la région sud-ouest. Et donc, voilà, Comme Équipe m'a accepté, j'ai fait un stage de reconversion et ça fait presque 2 ans maintenant. Et puis du stage de reconversion, ça c'est je fais comme ce que je faisais avant dans ma carrière militaire, toujours avec autant de rigueur, du montage d'antenne, du montage de studio, enfin bref, tout ce qui est intégration de solutions broadcast, voilà. Et je kiffe.
Ah oui, enfin, t'as kiffé. Enfin, bon, je pense que quand tu as vu la technique à Radio FMR, ça a dû te faire tout chose.
Alors, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis parce que nous, on travaille avec toutes les radios. Donc, on voit de tout partout. Et c'est vrai que moi, ça ne m'a pas choqué parce qu'on fait avec les moyens du bord. Parce qu'une radio locale ou une radio associative, ou, voilà, on fait avec les personnes qu'on a, les moyens qu'on a, et puis on évolue. Et puis voilà. Donc, ça ne m'a pas du tout choqué, non, pas du tout, pas du tout. Voilà.
D'accord. Jean-Marc, quand tu es rentré dans Atomic FM, tu es venu à la technique parce qu'il fallait quelqu'un, tu as été purement autodidacte, tu as subi une reconversion ou tu as chopé des docs à gauche, à droite, polycopiés ou sur IRC?
Alors moi, je vais dire que je vais faire de la veille concurrentielle, en fait, c'est ça le truc. Il faut savoir que je suis arrivé à la radio, c'est un pur hasard. J'avais une licence de biologie spécialisée en pétrochimie, donc absolument rien à voir avec le milieu de la radio.
Ça a dû te changer des organos magnésiens et des chaînes longues de carboné, oui, ça c'est sûr, et des phénols.
Si tu veux, je peux te parler de la fabrication de la chalcone et d'autres produits chimiques comme ça. Mais en 98, j'en ai eu un peu marre de Toulouse. Je voulais retrouver un tout petit peu mes terres aux Pyrénéennes, les terres bigourdanes comme Ben par exemple qui est juste à côté, qui est en Béarn. Donc moi je voulais retourner chez moi en Bigorre et je me suis posé pendant quelques mois et je me suis dit qu'est-ce que tu veux faire. Et moi j'ai toujours été passionné de radio comme je le disais, et J'ai participé à un casting qui était organisé par une radio associative qui était basée à Vic-en-Bigorre. C'était Radio Val d'Adour à l'époque. Et c'était qui était dirigé par Éric Barbet. Éric Barbet qui a travaillé par la suite pour Sud Radio et qui désormais travaille pour la France un incroyable talent au sein de Fremantle. Et c'est lui qui parle à l'oreillette de Karine Lemarchand. Donc il m'a donné cette chance-là. Par la suite, j'ai travaillé sur des réseaux, qu'il s'agisse d'Europe 2, à l'époque devenue depuis Virgin Radio, ou Fun Radio. Et puis je suis revenu à la radio associative puisque j'avais l'opportunité de reprendre une radio associative pour la faire évoluer. Donc moi, au départ, j'ai été embauché en radio pour faire le journal. Donc je suis journaliste avec une formation que j'ai eue par la suite du côté de l'ESJ à Lille, qui a été très très rapide d'ailleurs, mais j'ai plus appris sur le tas en fait ce métier de journaliste. Et si j'ai dû me mettre à la technique, c'est parce que lorsque j'ai repris la radio, Barous FM, qui est par la suite devenue Atomic, on avait très très peu de moyens pour réparer l'émetteur. Et donc, j'ai regardé comment les émetteurs étaient réparés petit à petit avec justement Patrick Boutet de Comequipe qui venait réparer l'émetteur. Et je regardais comment il faisait et j'ai appris au fur et à mesure comment on s'occupait de la technique, que ce soit les basses fréquences, mais aussi et surtout les hautes fréquences par la suite. Et je n'ai pas les bases, le métier que peut avoir Benoît, par exemple, au niveau de tout ce qui est technique HF, mais c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas pour faire des économies au niveau de la radio et ça me sert toujours puisque la maintenance, je m'en occupe et en fait, la radio associative, on dit très souvent que ce sont de toute façon des radios de catégorie A. Je dirais plus des radios de catégorie débrouillardise. Donc, il faudrait échanger en fait le truc. On est plutôt très débrouillard sur tout ce qui est fabrication d'émissions et autres. Et on le voit, hein, cette période de crise sanitaire, la radio, notamment et particulièrement la radio associative, est très créative, elle sait se bouger, elle sait évoluer pour répondre à un moment, une période bien spécifique. On en vit une actuellement et la radio associative est là pour répondre justement aux différents défis qui nous attendent.
On va rester sur Atomic FM. Combien de sites émetteurs ? Je crois que vous avez déjà 3 studios de production. 4, d'accord.
4 au total. Okay. 4 au total, il faut savoir...
4 lieux différents.
Voilà, on a le siège social qui est à Lourbarousse, où il y a aussi un studio de radio. Le studio principal, il est ici, même s'il est en travaux, d'où le vilain décor que vous avez juste derrière.
C'est de la radio, il ne voit rien.
Voilà, c'est de la radio, donc c'est très très bien. Mais en radio augmentée, donc si vous avez des vidéocasts, on le verra. On est en travaux ici, on a donc un studio à Tarbes, qui est le studio principal. On a un autre service radiophonique qui est Atomic Radio Sud-Aquitaine à Pau. Et on a aussi, parce qu'il y a une très forte demande sur le Pays Basque avec des associations qui n'ont pas droit à la parole sur les radios qui sont présentes là-bas sur place, nous avons aussi un studio d'enregistrement sur Bayonne, en plein petit Bayonne, ce qui est aussi pratique pour faire les fêtes. Donc voilà, Atomic, nous avons 4 studios au total et 10 fréquences en FM. Nous avons été sélectionnés en DAB+, sur Pau, où nous émettons déjà en FM.
Et donc ça fait 10 sites émetteurs à gérer.
Ça fait 10 émetteurs en FM, oui, tout à fait.
Programme unique d'ailleurs, ou il y a des décrochages locaux ?
Il y a des décrochages spécifiques, ce sont les fameuses annexes 3 sur la région Aquitaine pour Pau et Aire-sur-l'Adour, où là nous avons des informations spécifiques et des tranches d'animation qui sont aussi spécifiques à la région, puisque nous on souhaite et on couvre une bonne partie de la Gascogne, de la Bigorre, du Béarn, et donc on espère aussi couvrir le Pays Basque. Il y a une identité très forte entre ces départements, c'est le sud-ouest du sud-ouest, c'est l'esprit Festaire. Et Ben, il sait très bien ce que cette région-là a comme identité, même s'il y a des identités très fortes et des querelles de clochers, bien évidemment, entre Béarnais et Bigourdan particulièrement. Mais on sait bien s'entendre, puisque vraiment Ben, c'est plus qu'un ami, c'est quelqu'un vraiment qui fait partie de la famille, de la radio, et vraiment de celle que j'apprécie, parce que c'est quelqu'un de bien dans le domaine de la radio. On sait s'entendre, mais il faut aussi répondre à des demandes, à des identités particulières. Voilà, et donc nous, Atomic, on répond à cette demande-là.
Ben, vous avez, chez Comequipe, vous avez combien de sites émetteurs ? Vous avez combien de radios à peu près ?
Voilà, nous, c'est très simple. On fonctionne soit avec des contrats de maintenance, c'est-à-dire qu'on a des radios qui sont en contrat avec nous. Donc, il y en a entre 150 et 200 radios. Donc, ils sont en contrat de maintenance, mais je ne compte pas les radios qui viennent ponctuellement, qui ne sont pas en contrat de maintenance avec nous, mais qui ont un problème et qui nous appellent. Et là, on intervient, voilà, c'est une intervention.
Et là, j'imagine, vous découvrez l'Hélénos avec une lampe bidouillée à base de câble de cuivre et tout ça. Ah, quelle horreur.
C'est vrai qu'il y en a, tout à fait. Il y a de tout partout.
Faut expliquer. Un Hélénos, c'est un ampli de puissance, c'est-à-dire ce qu'il y a entre l'émetteur pilote de 5 watts, et c'est ce qui multiplie par 100 à 500, en fait, la puissance. Et c'est du vieux matériel des années 70-80, ça pèse 500 kilos. C'est une grosse ampoule qui rougit. C'est impressionnant la première fois qu'on a ça à gérer et on panique. J'ai paniqué, je le reconnais. Nom de Dieu, jamais deux fois.
Mais c'est vrai que, effectivement, sans pour autant rentrer dans trop de détails techniques, il y a du matériel qui est assez ancien, qui effectivement utilise une technologie, notamment au niveau du filtrage. L'alimentation, voilà, parce qu'il faut savoir que le filtrage, c'est très important aujourd'hui. Enfin, ça a toujours été important, mais on a l'habitude de faire attention au filtrage, parce que si un appareil est mal filtré, donc assez ancien, je n'entre pas trop dans les détails techniques, après il faut installer des cavités pour éviter de brouiller, pour éviter qu'il y ait des intermodulations, toutes ces choses-là, quand on retrouve par exemple plusieurs radios sur un site de diffusion. Voilà, ça c'est notre force, puisque on maîtrise ce côté-là, ce côté filtration, qui permet d'éviter tous ces petits problèmes. Et comme tu l'as très justement dit, avec du matériel qui est assez ancien, au niveau rendement électrique, il y a des calculs qui peuvent être faits entre j'ai un émetteur qui est assez ancien et je paye tant d'électricité à l'année, et je fais l'effort d'investir sur un émetteur un petit peu plus récent. Et là, je m'aperçois que la consommation électrique sur l'année est beaucoup moins importante. Voilà, c'est effectivement, c'est tous ces petits calculs qui effectivement, on part du filament de la lampe pour après affiner, pour avoir quelque chose qui consomme beaucoup moins. Voilà, des appareils beaucoup plus récents.
Alors, je tiens à rappeler une spécificité de l'émission CPU, c'est qu'on peut y aller sec, hein, sans forcément expliquer par le détail les 7 couches OSI ou les trames et tout le reste. Mais par contre, donc, un filtre à cavité, c'est assez impressionnant à voir. C'est une sorte de grande bouteille de gaz qui, en fait, est vide avec un intérieur c'est argenté, si je me souviens bien. Il y a une vis dessus. Et...
Oui, voilà, tout à fait. C'est rempli. On a l'habitude de dire que c'est rempli de vide. Voilà. Il y a des tiges filetées à l'intérieur, ce qui permet d'accorder, donc par rapport à la fréquence d'émission et par rapport à l'antenne, ça joue le rôle d'un gros condensateur, en gros. Voilà. Et puis l'ensemble fait un gros circuit RLC. Et en fait, cette cavité, on la règle par rapport à la fréquence. Tout ça, exactement, c'est ça.
Une question que j'ai oublié de poser, on est allé très vite sur la technique, mais actuellement, comment vous écoutez la radio ? Est-ce que c'est finalement par YouTube, sur une app mobile, en stream ou à l'ancienne en FM ou DAB+, donc avec un poste qui est dédié ? Ou par une clé USB de réception TNT avec une appli SDR, hein, parce qu'après tout, on se la joue un peu.
Tu y vas, Ben, ou alors je démarre ?
Eh bien, comme tu veux, moi, je me lance. J'écoute les radios, c'est bien simple, par tous les moyens, voilà. Que ça soit FM, que ça soit en modulation d'amplitude, que ça soit en DAB+, que ça soit par Internet. Voilà, j'ai un poste à la maison qui fait tous ces modes-là en même temps. Donc voilà, faut savoir que moi, j'écoute toutes ces radios. J'écoute aussi les radios sur Internet. Mais voilà, j'écoute par tous les supports possibles et inimaginables la radio. Voilà.
Jean-Marc ?
Et l'essentiel, c'est justement, oui, d'écouter la radio avec tous les supports qui sont disponibles pour écouter de bons programmes. Moi aussi, c'est pareil. J'écoute vraiment la radio avec tous les systèmes. Mon préféré, c'est toujours l'autoradio, parce que je suis souvent sur la route. Donc, c'est la FM. Mais il n'y a pas que la FM. Il y a aussi les ondes moyennes, les grandes ondes. Donc, je peux écouter des radios comme Bretagne 5, qui est la dernière radio à émettre en ondes moyennes en France, en grandes ondes. Donc, désormais, je n'écoute plus que RTL ou la BBC ou Radio Alger, soit ou alors Medi 1.
Radio Alger, il siffle toujours parce que c'était la caractéristique de Radio Alger, c'était le pssst derrière.
Il y a un léger sifflement, oui, effectivement, derrière.
J'ai jamais compris comment ils ont jamais réussi à le supprimer.
La réception est quand même assez difficile par chez nous. Donc, j'écoute aussi la radio en ondes courtes. J'écoute la radio en DAB quand je me suis déplacé, notamment sur Marseille ou Paris. J'ai la chance d'avoir une voiture qui est déjà équipée en DAB+. Je l'écoute aussi via Internet avec une application qui s'appelle TuneIn et que l'on retrouve donc sur mon smartphone. Et je l'écoute bien évidemment avec les assistants vocaux, que ce soit Google ou alors Alexa. Donc la radio, je l'écoute, je la consomme, je la surconsomme et je suis très heureux de pouvoir en bénéficier partout avec différents supports possibles.
Radio FMR gère son émetteur pour la diffusion FM. Alors, on a parlé tout à l'heure des gros émetteurs à tubes. Maintenant, il y a des émetteurs qui sont purement transistorisés, où ça sort d'ailleurs directement de la puissance et qui fait aussi l'encodage stéréo, le rajout du RDS. Donc, ça prend un espace absolument ridicule. Ça n'a rien à voir avec ce que je m'occupais. D'ailleurs, j'étais salarié à FMR pour ça il y a 20 ans. Actuellement, comment on gère un émetteur FM de nos jours? Est-ce qu'on peut faire du remote access, s'amuler en SSH, à le reparamétrer, ce genre de choses?
Alors moi, je vais parler pour moi, et c'est vrai que les émetteurs FM, alors il y a toujours la vieille façon, c'est que il y a une panne, tu vas aller te déplacer directement sur le site de diffusion pour réparer, voilà. Ou alors tu veux faire une modification technique et tout, tu vas aller directement sur place. Et moi, je préfère cette méthode-là pour une bonne et simple raison. Je sais pas ma petite Madeleine, mais c'est mon bonbon. J'aime bien aller sur un site de diffusion déjà parce que la vue est très souvent dégagée, donc on a une superbe vue. C'est un moment où je suis en zénitude totale, parce que c'est vraiment quand tu es en haut d'un château d'eau ou quand tu es en haut d'un pylône, quand tu es sur une montagne, alors là tu as une superbe vue sur la plaine ou sur la vallée. Donc c'est vrai que moi je préfère réparer les émetteurs ou alors les faire des re-réglages en étant directement sur place. Mais il est possible, via Internet notamment, de paramétrer, de faire de nouveaux réglages, d'augmenter ou de baisser la puissance, de rectifier une entrée audio qui serait peut-être un tout petit peu, ou une entrée MPX, pardon, qui serait un tout petit peu forte. Tout est possible, actuellement.
Ben, donc, pour comme équipe?
Oui, tout à fait. Donc, il y a effectivement, comme l'a dit très justement Jean-Marc, bien évidemment, pour gérer un site de diffusion, matériel de diffusion, il faut aller sur place. Parce que quand on est sur place, bien évidemment, qu'est-ce qu'on vérifie et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les aériens, on regarde l'état du pylône. Les aériens, donc les antennes, quand elles sont endommagées ou quand elles ne fonctionnent pas bien, eh bien évidemment, la radio, elle ne marche pas bien non plus.
Les aériens, faut expliquer, il y a le long pylône et ce sont en fait des branches qui partent à l'horizontale pour en fait essayer de sculpter en fait la zone de réception.
Oui, voilà, exactement. Après, il y a différents types d'antennes. Hein. Il y a les antennes de type dipôle, il y a les antennes de type circulaire, voilà. Mais si on part effectivement sur des antennes de type dipôle, il vaut mieux se déplacer sur les sites de diffusion pour voir tout ça, donc, pour voir s'il n'y a pas trop de retours d'ondes stationnaires. Ça, on peut le voir que sur place avec des appareils de mesure, hein, puisqu'il y a le retour d'ondes stationnaires et le taux d'ondes stationnaires, voilà. Ça, on peut le voir que sur place, pour la partie HF, en gros. Hein. Ensuite, pour la partie remote access, effectivement, il y a Internet, la DSL, il y a la fibre, il y a aussi la 4G. Petit inconvénient avec la 4G, comme il n'y a pas d'IP fixe, donc il faut trouver des moyens pour pouvoir se connecter sur un site de diffusion avec la 4G, mais c'est tout à fait faisable. Après, j'ai entendu que tu parlais de SSH. Alors, bien évidemment, pour moi, SSH, c'est plus une partie Linux, puisqu'on peut faire du remote accès, nous, avec des émetteurs, avec interface graphique. Hein. On peut gérer donc à distance avec interface graphique et avec du remote access on peut gérer les consommations électriques, donc on peut monter ou baisser la puissance, on peut faire pas mal de choses en ce sens-là, surtout par rapport à la consommation électrique. Après, la partie SSH, donc pour moi SSH, c'est comme je te disais, c'est plus Linux, donc là on va plus superviser des serveurs de streaming. Des serveurs qui peuvent faire office de multiplex dans le cadre du DAB+. Voilà, toutes ces choses-là. Effectivement, le SSH, ça marche très bien.
En France, les radios conventionnées émettent avec une puissance qui va de 500 watts, qu'en général on donne aux petites radios associatives jusqu'à 5 kilowatts, qui sont pour les très grosses radios nationales et la plupart des radios du service public. Quelle zone de couverture est possible avec ces puissances en FM ?
Alors ça dépend beaucoup du site, énormément du site de diffusion. Tu parles de 500 watts, ça peut être beaucoup plus bas. Je vais t'expliquer un cas qui est propre à Atomic. Nous sommes sur le site du PIBEST, qui est juste à côté de Lourdes, entre Lourdes et Argelès-Gazost, qui est très en avant sur la chaîne pyrénéenne, avec une altitude de 1349 mètres. Tu vois, au mètre près, je me souviens de l'altitude. 1349 mètres, parce que je l'ai fait souvent à pied. Donc, 1349 mètres d'altitude, et nous avons une puissance qui est inférieure à 100 watts.
Ah
qui
oui.
est même de 64 watts.
C'est conventionné ou c'est un choix ?
Non, ça fait partie des contraintes techniques qui nous ont été imposées par le CSA. Je parle des contraintes qui vont vers ces 32 watts même qui vont vers Tarbes et vers Pau. On nous reçoit avec cet émetteur-là, avec 32 watts donc, en direction de Tarbes et de Pau. On nous reçoit donc sur Tarbes, sur Pau, et on va même jusqu'au bassin de Lac. Avec si peu de puissance. Le plus important, ce n'est pas la puissance. Le plus important, en FM du moins, c'est le site. Où est-ce qu'il se trouve, l'altitude et la vue dégagée qu'il peut avoir par rapport à l'environnement proche et aux villes qu'il va toucher. Alors c'est vrai qu'avec une puissance aussi faible, c'est beaucoup plus difficile ensuite de rentrer dans les murs et d'être écoutable en indoor, par rapport à une écoute outdoor comme elle peut l'être avec un autoradio. Mais la puissance ne fait pas tout. Le site fait énormément.
Il y a aussi la concurrence. Je tiens à signaler donc que FM1 sur 89.1, qui a RTL2 qui est sur 88.7. Ça, c'est la fréquence théorique parce que j'ai vérifié avec une SDR. On peut les capter jusqu'à 84 et ça remonte des fois jusqu'à 140-150 MHz. Ça se demandait...
Il faut aller voir si l'émetteur est bien filtré, c'est ça.
Ouais, ça se demander pourquoi on investit dans l'RDS. Oui, puisque donc il y a une séparation en général de canaux de 400 kHz entre chaque radio en fréquence de garde, je vais dire. On va peut-être expliquer pourquoi, parce que il faut environ 15 kHz pour le signal mono. Pour mettre la stéréo, on a besoin de 75 et pour le RDS, en fait, il faut pratiquement 100 kHz, donc 100 kHz de chaque côté, ça fait à peu près le compte avec la marge.
On parle d'excursion pour la FM et l'excursion ne doit pas dépasser les 75 kHz. C'est-à-dire sur la fréquence nominale, à côté, sur les deux côtés, c'est 75 kHz en fait. Et ça, c'est une norme qui est souvent assez vérifiée, qui est très souvent vérifiée par les ATA, les agents techniques de l'audiovisuel de chaque CTA, comités territoriaux de l'audiovisuel qui sont les antennes locales du CSA. Bien évidemment, certaines sociétés vérifient aussi comme équipe, savoir si les émetteurs dont ils s'occupent ne dépassent pas cette excursion. Il y a une porteuse à 19 kHz qui est la porteuse stéréo et une autre porteuse à 57 kHz qui est la porteuse RDS. Je pense que Ben ne va pas me démentir sur ça.
De toute façon, si on excurse, les radios décrochent, ne vous captent plus avec. C'est horrible.
Oui, c'est vrai. Après, je rebondis par rapport à ce qu'a dit Jean-Marc sur deux choses, notamment par rapport à la question que tu as posée, Xavier, sur la puissance autorisée, les sites de diffusion, etc. Donc, je rebondis à ce qu'a dit Jean-Marc déjà d'une part là-dessus. C'est vrai qu'effectivement, un site bien dégagé, c'est primordial. Ensuite, on peut faire, donc nous, chez Comme Équipe, on fait des études de couverture pour savoir si le site en question, qui est bien dégagé, correspond donc à la zone, la zone donc de CSA hein, par rapport à la radio. Ensuite, bien évidemment, la puissance ne fait pas tout. Comme je disais tout à l'heure en début d'émission, si vous avez des antennes qui sont mal réglées, si vous avez un problème avec des connecteurs, tout simplement, ou avec un câble, ben voilà, déjà vous n'avez pas la puissance qu'il faut pour pouvoir sortir. Et puis il faut savoir aussi qu'en fonction du site de diffusion où vous vous trouvez et l'endroit que vous souhaitez couvrir, donc on va vous préconiser soit de mettre juste une seule antenne, ou alors deux antennes, ou alors trois antennes. Dans ce cas-là, on va parler donc de puissance autorisée, donc par exemple 500 watts, et de puissance apparente rayonnée, qui n'est pas du tout la même chose, puisque en fonction du gain de l'antenne, s'il y en a une ou s'il y en a deux, vous pouvez avoir une puissance apparente rayonnée doublée. Voilà, si vous avez par exemple deux antennes. Alors, je dis doublée parce que bien évidemment, dans une installation électrique, je prends l'exemple d'un château d'eau. Quand vous avez deux antennes dipôles avec une longueur de câble de 50 mètres, voilà, il y a des pertes dans le câble, il y a des pertes dans le connecteur. Donc, même si vous avez deux antennes, la puissance qui est affichée en bas sur l'émetteur, si c'est par exemple 500, on multiplie en deux pour avoir la PAR, ça fait 1000 watts en gros. Mais il faut penser au coefficient de perte dans les câbles, etc. Ça peut aussi avoir son incidence sur la portée. Tout ça pour dire que une installation correctement réglée, sans retour, réflexion d'onde stationnaire, taux d'onde stationnaire, avec un taux d'onde stationnaire correct, etc. Eh bien, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir de grande puissance pour pouvoir atteindre son objectif. Voilà.
On parle de PAR, donc de puissance apparente rayonnée. On parle de puissance en fait émise, mais quelle est la consommation électrique d'un émetteur FM à une puissance donnée? Parce que j'imagine que, par exemple, si on met 1000 watts, ça, il ne va pas sortir forcément 1000 watts, il va avoir des pertes à l'intérieur.
Oui, tout à fait, exactement. Alors après, sur une ça au niveau consommation électrique, ça dépend du rendement de l'émetteur.
Et suivant les marques, oui, c'est très différent. C'est très, très différent. Vous avez même certaines marques qui ont conservé leur gamme d'émetteurs normaux, on va dire, entre guillemets. Et de l'autre côté, ils ont développé une gamme d'émetteurs green, vert, écolo, ou qui dépensent moins de puissance électrique, où il y a moins de consommation énergétique. Grosso modo, parce qu'il y a des pertes à chaque fois lorsqu'on émet, il y a des pertes, notamment au niveau de la chaleur. Un transistor de puissance va dégager de la chaleur, donc il va déjà y avoir de la perte là-dedans. On va dire qu'un émetteur de 500 watts normal va dépenser 1000 watts de puissance, tandis qu'un émetteur green de 500 watts va peut-être dépenser entre 700 et 800 watts.
Et il y a du water cooling, comme on faisait dans les centres émetteurs des années 20 années 30?
Ça existe, alors, notamment pour les très grosses puissances.
On expliquera pour les auditeurs, vous irez sur la page web de l'émission cpu.pm/0149 si je ne me trompe pas. Il y a de superbes photos sur le site 100 ans d'histoire de la radio où on voit les sites émetteurs justement de ces années 20, années 30, années 40 où on a des installations absolument fabuleuses et souvent avec des circuits d'eau complètement démentiels.
Et même avec des piscines. Il faut savoir que Radio Andorre, par exemple, sur le site en Andorre, du côté d'Encamp, ouais, c'est bien ça, il y avait une piscine par derrière pour refroidir les émetteurs avec l'eau aussi. Du côté de Felsberg aussi, avec malheureusement les antennes d'Europe 1 qui ont été détruites
tout récemment,
les 20 et 27 octobre dernier, donc c'est récent, hein. Il y avait là aussi une piscine qui était juste derrière, qui n'était plus utilisée depuis pas mal d'années, puisque là on était passé sur des émetteurs transistorisés. Mais oui, auparavant, l'eau arrivait, pour la refroidir, il fallait une grande masse d'eau quand même, et donc ça venait de piscines qui se trouvaient juste à côté des centres émetteurs. Pour les émetteurs FM, ils sont quand même un tout petit peu plus petits, donc le water cooling se fait d'une autre manière.
À la limite, si vous achetez la dernière carte de chez Nvidia pour jouer à Cyberpunk 2077, s'il sort, à mon avis, vous dépensez plus en énergie, en départition qu'un de nos émetteurs. Pour installer un émetteur, outre qu'il faut être un service conventionné par le CSA dans le cadre d'un service audiovisuel, quelles sont les autres contraintes administratives et les autorités qui interviennent? Je ne sais pas qui veut se lancer. Benoît Perguilhem de chez Comequipe ou Jean-Marc Courrèges-Sénac de Lara?
Moi, je vais juste parler d'une chose et je laisserai ensuite Ben s'exprimer. Il y a bien évidemment la case CSA et avec la convention qui va être signée entre le service radiophonique et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais il y a aussi les fameuses fiches COM6 qu'il faut donc remplir à chaque fois lorsqu'on souhaite changer de site de diffusion ou lorsqu'on obtient une nouvelle fréquence on décide d'un site de diffusion nouveau. Ces fiches COM6, elles sont récupérées par le CSA. Elles sont aussi étudiées par l'ANFR, qui est l'Agence nationale des fréquences radio. Voilà. Ça, c'est pour faire très très court et je laisse la parole à Ben.
Et si vous voulez d'ailleurs plus d'informations, où sont les sites émetteurs? C'est sur un site de l'ANFR qui s'appelle cartoradio.fr. Benoît?
Oui, je rebondis à ce que dit Jean-Marc. Effectivement, les fiches COM6, où on précise donc la localisation du site de diffusion, la puissance, la directivité des antennes. Voilà, c'est une fiche donc technique, la fiche COM6. On nous demande de remplir. Il y a autre chose aussi. Je voudrais rebondir par rapport à ce qu'a dit Jean-Marc aussi tout à l'heure, ce qui est intéressant quand il a dit que quand il y avait des contrôles ou quand on parlait d'excursion, nous aussi comme on joue un rôle, voilà, quand il y a une autorité qui passe sur un site de diffusion et qui détecte donc une surexcursion ou un problème. Xavier, tout à l'heure tu as parlé que tu entendais une radio sur plusieurs fréquences. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on arrive à gérer assez facilement avec, toujours pareil, l'idée du filtrage, puisque quand on entend sur une radio sur plusieurs fréquences comme ça, il y a une notion de produit d'intermodulation, surtout quand on a plusieurs radios qui diffusent sur le même site de diffusion. Voilà. Donc nous, on est aussi en mesure de prévoir tout ça, c'est-à-dire, outre la fiche COM6, quand il y a une radio qui nous téléphone et qui nous dit « bonjour, on souhaite s'installer quelque part », les premières questions qu'on va poser, c'est « est-ce qu'il y a déjà une autre radio sur le site de diffusion ?»« Oui, non. Est-ce que vous allez utiliser le même jeu d'antenne ?»« Oui, non. » Puis après, on découle différentes options techniques à adopter, justement, pour ne pas être après embêté au niveau, effectivement, de l'ANFR, qui peut faire des comptes rendus, hein, pour brouillage, par exemple. Voilà.
Et quelles sont les contraintes physiques? Je suppose, bon, on a déjà parlé, on n'émet pas au creux d'un vallon. Radio Éphémère est sûr, émet depuis le site de Radio Occitanie, qui est une superbe villa. Et très beau barbecue, des fois, de temps en temps. Mais quelles sont les contraintes que vous avez eues à vivre, qui pour vous, vous y attendez pas, pour une raison X ou Y? Genre, est-ce qu'on nous a demandé de faire des antennes, mais pas trop hautes, ou camouflées en sapin, ou que sais-je?
Perso, sur les 10 sites de diffusion, je crois que chacun a sa petite anecdote. Donc, je vais peut-être en retenir sur une. Nous sommes situés, par exemple, nous avons obtenu dernièrement une fréquence à Barège, donc dans les Hautes-Pyrénées, et nous sommes situés sur une ancienne gare d'arrivée d'un funiculaire, c'est la gare de l'Airé. On est à 2000 mètres d'altitude, sur une réserve ONF, l'Office national des forêts, ouais, avec le grand étrat qui se trouve aux alentours. Donc, on ne peut pas toujours accéder comme on le souhaite sur ce site de diffusion. Ensuite, il y a d'autres sites qui ne sont accessibles qu'à pied ou en hélicoptère. Donc, pour
ça doit douiller pour faire la maintenance.
Alors, soit ça douille au niveau de l'hélicoptère parce que la location, elle, c'est quand même pas donné. Ou alors ça douille physiquement, notamment lorsque vous avez un physique aussi sportif que le mien, pour lorsque vous avez à faire 2h30 de randonnée pour aller jusqu'au site avec tout le matériel sur votre dos. Voilà. Donc ça fait partie des contraintes physiques, mais physiques humaines que j'ai connues lorsque pour réparer ou alors pour mettre en service certains émetteurs. Et aussi, lorsque vous rentrez la première fois dans un château d'eau, Mais en fait, c'est juste magique lorsque vous rentrez là-dedans et lorsque vous rentrez dans le tunnel qui vous amène où il y a l'eau qui est à côté, derrière le béton, derrière les murs de béton où il y a l'eau qui est juste derrière. C'est quand même assez. On fait un métier formidable, moi, je trouve.
Benoît, chez Comme Équipe, qu'est-ce que tu peux dire sans manquer de loyauté à ton employeur?
Non, mais chez nous, c'est très simple. Enfin, même moi, chaque intervention, chaque radio, chaque site est différent. Il y a toujours sa spécificité. Moi, j'ai une anecdote, je rebondis sur ce que dit Jean-Marc. Moi, ça m'est arrivé d'aller sur un site de diffusion pour installer du matériel à pied. Voilà, avec la cavité dans le sac à dos et on monte à pied sur le site de diffusion. Voilà,
une cavité de combien 30 kilos, 50 kilos
À peu près une trentaine de kilos, oui, parce que bon, il y avait la caisse à outils aussi, hein, puisque voilà, donc effectivement, ça c'est vrai que ça peut nous arriver.
J'aimerais juste savoir quelque chose, Ben. Est-ce que tu fais comme moi lorsque tu fais cette randonnée-là où tu es fatigué de la journée et tu balances des gros mots tout le long du trajet? Parce que moi, ça me permet de me motiver.
Ouais. Oui, ça m'arrive. Ouais, ça m'arrive.
Non, Jean-Marc, tu peux redescendre. C'est pas les plombs qui ont sauté. C'est EDF qui a fait une coupure de secteur.
Alors ça m'est déjà arrivé, figure-toi. Ça m'est déjà arrivé où on a cru qu'il y avait un gros problème et EDF, enfin le réseau Enedis, nous disait qu'il n'y avait aucun souci. Non, l'électricité était bien là. Et arrivé sur place, non, c'était un vrai problème d'électricité qu'il y avait. Donc déplacement pour rien.
Merci, je suis au courant. Nous revenons après cette publicité pour un récepteur radio télépathique. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Jean-Marc Courrèges-Sénac, spécialiste DAB+, pour l'ARA, l'Association Régionale des Radios Associatives, et Benoît Perguilhem, responsable DAB+, chez Comequipe, prestataire de diffusion pour le lancement de FMR sur la radio numérique terrestre. Ah, allez, vole petit oiseau, vole petite radio, hop, on va y arriver. Le DAB+, c'est un peu comme la TNT pour la télévision en 2005, la promesse d'une explosion d'offres. Il y a quoi ? 32 stations FM sur Toulouse, je crois, hein, de mémoire. On a combien de radios écoutables en DAB+, à la fin de 2001 ? On en aura 63 à peu près ?
À la fin de 2020, pas encore.
2021, 60... pardon, je précise.
À 2021, oui. Alors oui, 64. On en aura 64. Il y a deux allotissements locaux. Chacun supporte... 13 radios donc qui ont été sélectionnées par le CSA. Il y a un allotissement étendu qui couvre à peu près le territoire de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Donc ça fait 13 radios de plus, on est déjà à 39. Et à cela se rajoutent deux allotissements nationaux, un qui va avoir 13 radios et un autre où il y aura 12 radios. Donc 39 plus 25, normalement ça fait 64 si je suis encore bon en maths.
Et je crois qu'en plus il y a un appel d'offres.
Doublement de ce qui est proposé actuellement à FM.
C'est vrai que Toulouse, on est vraiment un cas très particulier par le nombre de stations FM qui nous desservent. Combien cela coûte conventionnellement d'émettre en DAB+ par rapport à une diffusion FM ? Je ne parle pas de notre bouquet, on en reparlera plus tard. Je demande le devis là, Benoît.
Oui. Alors, on peut donner les chiffres de TDF ou de Towercast, mais on va donner une large marge parce qu'il y a différentes prestations qui peuvent se rajouter. Il y a le transport du signal, il peut y avoir des secours qui peuvent se rajouter en plus par rapport au transport du studio vers l'émetteur. Par émetteur, ça peut se chiffrer de 400 jusqu'à 800, voire même 1000 euros. Voilà. Ça, c'est pour les solutions dites traditionnelles. L'émetteur est géré directement par en FM. Ah, non, là, moi, je te parle en DAB+.
Oui.
En FM, ça coûte beaucoup plus cher d'émettre en FM par rapport au DAB+. Si sur Toulouse, vous devez faire, je connais pas les chiffres de Towercast ou de TDF pour être diffusé en FM, mais ça doit bien approcher les 2 à 3 000 euros, j'imagine, par mois.
Benoît.
Oui. On parle de combien ça coûte et tu vas parler tout à l'heure du modèle alternatif qui est proposé et qui fonctionne très bien. Je ne vais pas parler de chiffres par rapport aux différents prestataires, Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Jean-Marc. Effectivement, un émetteur FM, c'est une fréquence, une radio. Un émetteur en DAB+, c'est une fréquence, 13 radios, 13 canaux. Donc, c'est divisé par 13. Même si le prix de l'émetteur est plus cher, un émetteur DAB+, est plus cher qu'un émetteur FM, aujourd'hui, je peux peut-être me tromper, mais avec le modèle alternatif, ça coûte moins cher de diffuser en DAB+ pour les radios qu'en FM. Mmh. Voilà, c'est ce que je peux dire aujourd'hui.
Alors, comment marche la stack technique à partir de la régie finale d'une radio pour émettre en DAB+? Alors voilà, j'ai mon signal, j'ai un appareil spécial qu'on appelle un codec qui émet sur une liaison spécialisée ou sur les internets. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Alors là, je vais laisser la parole à Ben. Il faut juste savoir que la solution alternative, avant même que Ben ne rejoigne comme équipe, c'est une solution qui a été travaillée en amont déjà par l'ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives, et par la suite, ça a bénéficié aussi aux radios de la CNRA. On avait assisté avec Benoît à plusieurs présentations d'une solution en open source qui était très artisanale à l'époque, et qui avait été présenté au Salon de la Radio à Paris. Ben, à l'époque, travaillait encore pour le ministère de la Défense, depuis nommé ministère des Armées. C'est quelqu'un que j'avais connu, que j'avais rencontré dans une radio asso sur Bordeaux, Benoît. On avait vite matché parce qu'on était vraiment passionnés de radio. Et je savais qu'en technique, voilà, il pouvait, moi, j'avais pas trop le temps de développer ça. Et donc, c'est vrai qu'il a développé par lui-même en prenant aussi des contacts avec les personnes qui avaient développer cette solution alternative, notamment sur Marseille avec SDN, ADN et aussi avec des techniciens qui sont par la suite partis en Suisse. La faisabilité administrative a ensuite été étudiée par l'ARA et on a fait appel à l'école des mines d'Alès pour pouvoir étudier tout l'aspect administratif et aussi commercial de cette solution. Il faut bien savoir quelque chose. Le DAB+ a été présenté aux radios associatives comme étant une solution qui était hors de portée pour les radios associatives parce que hors de prix. Parce qu'il fallait passer, comme l'a dit Ben, en FM, c'est un émetteur, une radio, un site de diffusion. Et la radio peut décider de ce site de diffusion. Pour émettre en DAB+, c'est 13 radios qui doivent se mettre d'accord pour choisir un site de diffusion, un opérateur de multiplex et être diffusé par la suite.
C'est pas du tout compliqué.
C'est assez compliqué, on va dire. On va pas dire que c'est complètement compliqué et que c'est fermé pour toutes les radios. Nous, on a fait le travail au niveau de la CNRA pour que ce système-là, que cette diffusion en numérique soit accessible à toutes les radios, à tout ce qu'on appelle les petits opérateurs. Ça concerne les radios associatives, ça concerne aussi les radios commerciales qui ont une faible zone de diffusion et qui souhaiteraient s'agrandir ailleurs. Donc cette solution, et je remercie Ben parce que c'est lui qui a surtout travaillé là-dessus, c'est une solution qui a été développée par Benoît. Au niveau technique, c'est vrai qu'il y a eu aussi le concours de Ma Radio, de l'ARA, de la région Occitanie aussi, on y reviendra par la suite pour l'aide à la transition numérique, notamment pour les radios du multiplex, de l'allotissement local toulousain. Donc on est très satisfaits de ça, puisque on a vu qu'une volonté fédérative ou confédérative a fait que on a rendu accessible aux radios associatives le DAB+, alors qu'on leur promettait que c'était inadapté pour elles et que donc ce n'était pas du tout accessible pour elles. Nous, on a fait le job parce qu'il n'y a pas eu de financement spécifique pour la radio numérique terrestre, pour le DAB+. Il n'y a pas de financement spécifique qui est attribué aux radios associatives parce qu'elles émettent en DAB+ et parce qu'il y a aussi une problématique de coût de double diffusion. Nous, on a fait cet effort pour que le DAB+ soit accessible aux radios. Maintenant, il faut qu'un effort soit fait au niveau du CSA pour que des ressources soient trouvées, pour que toutes les radios associatives puissent trouver leur place en DAB+. parce que il y a sur Toulouse actuellement FM un peu plus d'une dizaine de radios de catégorie A et des radios associatives qui sont proposées avec notamment des demi-fréquences, c'est le cas de FMR, c'est le cas de Booster qui ont le 89.1 sur Toulouse. Le DAB+ fait que désormais vous allez émettre chacune de ces radios 24 heures sur 24, mais il y a des radios qui ne sont toujours pas présentes en DAB+ sur Toulouse, qui peut-être penser espérer une deuxième vague ou autre. Il va falloir trouver de leur place pour qu'elles puissent émettre en numérique.
Parle et pas de cela, deuxième vague en ce moment.
Et pour cela, il faut aussi que le CSA considère les radios locales. C'est un élément essentiel, et notamment en période de crise comme celle que nous connaissons actuellement. Et pour moi, c'est mon point de vue qui est très partagé au niveau de l'ARA et aussi au niveau de la CNRA. C'est qu'une radio locale parle à un auditeur et elle sait parler à cet auditeur sur le territoire défini que souhaite toucher cette radio. Une radio locale sera pour moi, c'est mon point de vue, toujours plus légitime qu'une radio nationale pour qui, arriver sur un territoire, un auditeur, elle ne parlera pas directement à cet auditeur. L'auditeur, ce sera un auditeur en plus que l'on pourra justifier pour commercialiser plus cher au niveau d'une régie publicitaire. Voilà toute la différence entre une radio locale, notamment une radio associative, et une radio et un réseau national. Donc pour moi, l'essentiel, c'est qu'une radio locale puisse trouver sa place sur le DAB+. Et il faut que les radios aussi déterminent un territoire bien défini qui réponde à une attente d'auditeurs, en particulier sur un territoire qui a une identité bien précise. Et la radio locale qui voudra s'adresser à ce public aura toujours, pour moi, plus de légitimité qu'un réseau national, et notamment un réseau parisien. Alors, c'est pas une dénonciation du jacobinisme ambiant qui règne un tout petit peu en France, mais c'est quelque chose qui est pour moi très grave, très très grave. C'est qu'une radio associative locale qui a une ambition de développement territorial définie en amont, limitée, je dirais même plus raisonnée, pour elle, elle a toute sa légitimité pour obtenir une fréquence. Et ne pas l'obtenir, cette fréquence, pour une radio locale, c'est mettre en péril l'avenir même, l'avenir économique de cette radio.
Mmh. On y revient.
Donc nous avons fait le job pour rendre accessible le DAB+. Désormais, on attend aussi qu'il y ait, et des discussions sont en cours avec le CSA, et je suis très content qu'un groupe de travail sur les radios associatives ait été mis en œuvre par notamment Nicolas Curien, qui est le sage, le conseiller donc du CSA en charge de la radio au sein du CSA. Je suis très très content qu'il y ait un groupe de travail spécifique aux radios associatives qui a été créé au sein du CSA.
Je te remercie énormément, Jean-Marc. Donc, je rappelle donc que tu parles au nom de l'ARA et du CNRA, qui sont des syndicats qui représentent une partie, d'ailleurs, des radios associatives, et dont FMR est membre, d'ailleurs, des deux. Et après, peut-être qu'on parlera, mais ça, c'est un autre plateau qui est prévu, justement, du choix de ces radios associatives à ne pas avoir répondu sur ce cahier des charges. Et ce sera une émission qui va être enregistrée avec, justement, le secrétaire général du CTA de Toulouse. Et on passe du studio de production radio à l'émetteur, donc on part chez comme équipe. Benoît, est-ce que tu peux dire justement comment ça marche le DAB+, une fois qu'on part du studio, qu'on envoie le signal audio numérique?
Alors, je rebondis encore une fois sur ce qu'a dit Marc, effectivement. Le DAB+, donc les premières expérimentations, Jean-Marc, de mémoire, c'était en 2018, je crois.
En 2017 même.
2017, ouais, on en a passé des nuits blanches, hein.
Les premières expérimentations sur la stack logiciel libre, hein, en question.
C'est ça. Oui, voilà. Oui, voilà, c'est vraiment sur solution en open source. Et là, de là, à partir de là, on a vraiment enclenché toute la partie technique. C'est Benoît qui s'en est occupé. Bénévolement, je tiens à le rappeler. Sur toute la partie administrative, commercialisation et de savoir si ça pouvait être ensuite adopté par n'importe quelle radio, pas que des radios associatives, ça c'est au niveau de l'ARA aussi que ça a été développé, et ensuite au niveau de la CNRA, ça a été mis en œuvre, et le premier à avoir été mis en œuvre, c'est du côté de l'Alsace avec Strasbourg et aussi Célestat de mémoire.
Et par rapport à effectivement cette donc 2017, on a commencé notre première expérimentation. On en a passé des nuits blanches, mais vraiment, vraiment. Donc pour ces expérimentations, puisqu'on est parti de zéro et je suis effectivement techniquement parti de zéro, je pense que c'est important d'en parler dans ton émission. C'est pour toutes les personnes qui sont intéressées par le DAB+ et la radio numérique et qui voudraient savoir comment ça fonctionne ou qui voudraient essayer de faire un petit multiplex voilà, voir comment ça marche, faire avec un petit émetteur. Moi, je me suis appuyé sur le site et sur un organisme, sur une association qui est Open Digital Radio, opendigitalradio.org, où sur ce site, vous allez retrouver tous les outils nécessaires qui permettent, sous Linux, bien évidemment, qui permettent de faire fonctionner un émetteur DAB+, donc un multiplex. Et il y a des liens aussi pour la partie émission, où là, on peut utiliser des cartes spécifiques DAB+, ou alors des cartes radiologicielles comme l'USRP, le AKRF, ou alors la SWAPI SDR. Voilà, donc ce site opendigitalradio.org est très intéressant pour ceux qui veulent s'intéresser à la technique du DAB+. Maintenant, comment ça fonctionne le DAB+ et comment ça marche sur Toulouse, hein, puisqu'on parle de Toulouse. Très simplement, c'est-à-dire que vous avez un flux audio qui part du studio. Ce flux audio est récupéré sur un serveur de streaming, voilà. C'est de l'Icecast. Donc, ce flux audio peut être envoyé soit en MP3. Donc, plus la qualité est importante, plus après, vous allez avoir en DAB+ une qualité nettement meilleure, hein, que si vous avez un flux déjà à la base qui n'est pas très, très bon. Donc, c'est pour ça que on préconise un flux assez élevé, donc du 320 en MP3. Voilà, mais vous pouvez très bien démarrer en 128.
Et je précise que Benoît n'a pas encore écouté donc l'émission numéro 148 sur les codecs et l'inutilité de compresser du MP3 au-delà de 256.
Alors j'en viens justement, hein, parce que ce qui est important en DAB+, on parle de taux de compression, mais ce qui est important en DAB+, c'est le taux d'échantillonnage, hein, qui doit être à 48 kilos. Voilà. Après, quand on pousse donc on pousse les flux audio vers le serveur de stream. Je parle de MP3 parce que c'est une solution qui est simple aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez très bien envoyer du FLAC aussi. Alors bien évidemment, si vous envoyez du FLAC, donc ça demande nettement une bande passante relativement importante au niveau d'Internet. Bon, si vous avez la bande passante suffisante, bien évidemment, vous envoyez du FLAC. Mais la majeure partie des éditeurs aujourd'hui envoient du MP3 sur un serveur de stream. Ce serveur de stream, donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ce serveur de stream, il permet de faire l'interface entre donc ce que vous envoyez et le mux. Donc, il y a entre le serveur de stream et le mux une collecte de flux. Cette collecte de flux donc passe par un codeur DAB+, d'où l'importance du taux d'échantillonnage à 48 kilos. Et ce codeur DAB+, donc, qui est intégré à la partie multiplex, à la partie mux, donc va ressortir un signal. Donc voilà, un signal. Oui, on va appeler ça un signal. Un ensemble de transport interface par IP, qui est donc l'EDI. L'EDI qui est l'encapsulation DAB interface. Voilà. Et ce signal EDI, donc comment ça se traduit? C'est un flux, tout simplement, EDI, qui peut être aux environs de 2 mégas. Et ce flux-là rentre dans l'émetteur DAB+, et l'émetteur, comment il fonctionne? Il reçoit ce flux EDI. Dans ce flux, donc, on retrouve pas mal de choses, mais on retrouve le flux audio des 13 radios ainsi que les données associées. Et ce flux EDI rentre dans l'émetteur, et donc l'émetteur après traduit tout ça et divise donc la fréquence en 13 canaux. Enfin, les 13 éditeurs Alors, je vais essayer d'expliquer simplement parce qu'en fait, on va parler de 88 kilos. En fait, ça dépend. Si vous avez 13 radios, vous multipliez 13 par 88, ça va vous donner un chiffre. Et en gros, c'est la capacité que peut accueillir un multiplex. Voilà.
C'est la bande passante, et tu peux le dire, et c'est la bande passante en fait qui est délivrée et qui représente à peu près 1,5 MHz pour les non, 1500 qui
oui, c'est 1,5 mégabits.
Ouais, c'est 1,5 méga.
Oui, voilà, parce que effectivement les 1,5 méga donc le flux des 13 radios donc qui sont encapsulés dans ce flux EDI. Les 1,5 mégas, les 1000, donc ça se traduit quand on a un analyseur sur 1536 porteuses par rapport au signal. Et là, on voit bien effectivement, donc c'est 1536 porteuses, mais le flux EDI, c'est bien le flux où on retrouve les 13 radios, le flux audio, le flux audio des 13 radios et les données associées. Voilà.
Dans les données associées, il y a les images, il y a le logo de l'émission, de la radio. On peut mettre le logo de, on peut mettre la pochette de disque, on peut mettre un guide des programmes, un EPG. Il y a plein d'informations dedans. On mettra le lien vers la spec et tout ça sur le site. Il y en a qui veulent s'y amuser. Vous allez vraiment adorer. C'est bourré de choses intéressantes et c'est normé, c'est fiable de ce côté-là.
Oui.
Donc,
oui, tout à fait.
Ce signal est renvoyé en fait à l'émetteur. L'émetteur l'accepte directement ou n'importe quel signal où il faut jouer un peu là-dessus.
Alors, bon, sans dévoiler les secrets de fabrication, puisque ça aussi, ça fait partie.
D'accord, t'es sous NDA, je t'oblige pas.
Hein. Pas du tout, non, mais c'est très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le flux EDI, c'est de l'UDP. Voilà. Donc, déjà, d'une part. Ensuite, c'est de l'IP. Donc, bien évidemment, il y a des adresses IP à mettre de chaque côté. Donc, le multiplex a une adresse IP et l'émetteur, il y a une adresse IP qui est prévue pour recevoir ce flux. Et tout simplement. Après, un émetteur DAB+, par rapport à un émetteur FM, là où c'est important, là où c'est très important, on parlait tout à l'heure des 1536 porteuses, donc du signal en DAB+, c'est la notion de filtrage. Un émetteur de DAB+, un émetteur FM, on parlait de cavité, de filtrage, ouais. C'est une chose. On peut les préconiser, voilà. Mais en revanche, en DAB+, le filtre, c'est obligatoire. Voilà. On peut très bien utiliser un émetteur en DAB+ sans filtre. Mais alors là, je vous dis pas le brouillage. Et un émetteur DAB+ sans filtre, ça se traduit si vous avez un brouillage. Voilà. Si vous voulez savoir si c'est du DAB, on va dire. Voilà. Ça fait un bruit de mitraillette. Voilà. C'est vraiment typique du numérique à l'oreille. Donc, voilà. Donc, il faut pas s'amuser à utiliser un émetteur DAB+ sans filtre. Voilà. Après, il y a une notion de filtre qui existe, filtre critique et filtre non critique. Ça dépend si dans une zone comme Toulouse où on a bon déjà deux multiplex locaux, on a aussi un étendu. Ça dépend si on utilise des canaux adjacents ou pas. Parce que autant en FM, quand on est dans une émission précédente, tu parlais de 400 kilos d'écart entre deux fréquences. Là, on parle bien de canal. Et effectivement, quand les canaux sont adjacents, si le filtrage n'est pas donc critique, on appelle ça filtré de manière critique, eh bien les deux canaux peuvent se superposer. Et là, effectivement, il peut y avoir un problème de réception. Voilà. Donc c'est pour ça qu'après un émetteur DAB+, tout ce qui est réglage donc de la collecte de flux jusqu'à la sortie des antennes. Donc, il y a plusieurs parties. Il y a une partie audio déjà, après une partie réseau, après une partie HF où il faut connaître pas mal de choses, et une partie métrologie aussi très importante avec le filtrage, parce que il y a pas mal de précorrections entre le filtre et l'émetteur à adopter pour que le signal aille le plus loin possible. On parlait de PAR, on parlait de tout à l'heure, ou dans une autre émission, on parlait de PAR. En DAB+, c'est un petit peu comme la FM. Vous pouvez avoir la même PAR, Mais si le réglage n'est pas affiné, et notamment DAB+, si ce n'est pas bien filtré, eh bien, il peut y avoir des problèmes de mauvaise réception dans des lieux. Voilà.
Dans le broadcast, on n'a fait pas du tout confiance dans le logiciel libre. La meilleure preuve, c'est que dans les appareils professionnels qui valent en général assez cher, l'encodeur MP3 le plus courant est celui de Fraunhofer et pas celui de Lame, qui est pourtant de bien meilleure qualité. Est-ce que finalement, c'est la pingrerie qui a gagné ?
C'est vrai que pour c'est du HEAC qui est sur enfin une version un tout petit peu plus évoluée.
HE, alors le nom commercial, si je me souviens bien, c'est EAC plus 2, et c'est du HEAC V2 que, étendu. Et c'est une génération, si je me souviens bien, qui est sortie en 2004.
Voilà. Donc ça, des tests ont été faits déjà. Alors, il faut savoir que le codec, il évolue à chaque fois. Mmh. Ce qu'il y a de bien avec les solutions en open source, c'est que il y a quand même une communauté derrière et qui fait développer la chose. Pour le codec utilisé en open source, je sais qu'il a évolué, mais il y a déjà eu des tests d'écoute entre le codec
l'officiel,
propriétaire, on va dire, et professionnel, et avec le codec en open source. Franchement, la qualité de son ne s'entend quasiment pas. Mais Ben pourra sûrement en dire plus, parce que lui, je sais qu'il a fait les tests sur plusieurs.
80, c'est assez pour vous en débit pour la musique ? Ou c'est... c'est quand même un petit
Alors,
peu
en tant que mélomane, moi, je préfère le linéaire.
Alors,
il y a les formats non compressés.
Oui,
je
ne
suis pas
mais...
fanable de l'AAC, plus de l'HEAC ou de l'AACV2. Mais voilà, je ne suis pas fana, comme je ne suis pas fana du MP3 non plus. Mais il faut s'y faire, et ça permet aussi qu'il y ait plus de radio, et puis ça fait partie aussi du principe de numérisation, et qu'il y ait autant de radio sur une aussi faible bande passante et une ressource quand même assez faible qui est utilisée pour y mettre et pour y placer 13 radios. Ensuite, le mélomane que je suis avec les grandes oreilles que j'ai n'aime pas en général les formats compressés.
Tu vas être déçu avec moi, Jean-Marc. Benoît, comme équipe, en fait, le logiciel libre, c'est pas très apprécié en général dans le monde du broadcast, aussi bien en studio que sur les émetteurs. Finalement, c'est la pingrerie qui a gagné.
Disons que avec le libre, on peut faire beaucoup de choses. Donc,
ça. Non, rend... pas possible.
Moi, je suis pour le libre. J'utilise le libre donc avec Linux et des distributions comme Debian. Bon, voilà. Maintenant, il y a Debian Jesse, il y a Debian Stretch, il y a Debian Buster. Voilà. Le monde du libre évolue. Il faut le suivre. Quand on a une application, on fait effectivement hein, avec du libre, on peut faire de la radio numérique terrestre, comme je disais tout à l'heure, avec quand vous allez sur le site opendigitalradio.org, vous pouvez faire des choses, hein, même avec un Raspberry, là, qui est très bien. Maintenant, quand on fait du libre comme ça, il faut le suivre, il faut faire que ça.
Juste pour dire, le Raspberry nous a bien servi au tout début des expérimentations.
Bien sûr.
C'est grâce à ça où on a fait nous un premier test avec un petit multiplex de 4 radios, je m'en souviens, avec un Raspberry.
Un Raspberry 3 à l'époque.
C'était un PI3. Et c'est vrai que ça nous a vraiment servi pour par la suite, puisque Ben ne connaissait pas non plus que ça Linux, et il s'est mis à apprendre. Donc c'est voilà, le Raspberry a servi à ça.
Ah oui, des nuits blanches. Hein, quand je disais tout à l'heure qu'on a passé des nuits blanches, voilà.
Et même parce que à l'époque, au début, c'est vrai, tu étais en région parisienne, à Versailles, et par la suite, tu étais en Bretagne. Et oui. Parfois, je profitais de monter sur Paris ou autre pour pouvoir se voir et lui donner du matériel qui lui permettait de faire les expérimentations.
Oui, pendant le salon de la radio même.
Oui.
Ça change des RMLL ou du Capitole du Libre. Quelle contribution avez-vous fait en retour à la communauté du logiciel libre ? Vous avez juste consommé ou bien finalement, vous avez contribué par de la doc, par de la traduction, par un logo, je ne sais pas, ou même, pourquoi pas, par le code ?
Alors c'est surtout toi, Ben, sachant que Ben en plus a participé à un atelier avec d'autres participants au développement de l'Open Radio, Open Digital Radio, pardon, de l'Open Digital Radio, et Ben a participé à des ateliers où notamment il y a eu des expérimentations à SFN, on en parlera par la suite, hein, mais voilà, je pense que tu as déjà participé à ce genre d'atelier.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, donc opendigitalradio.org, Open Digital Radio, c'est une communauté, enfin une association. Tout le monde peut s'inscrire. Il y a un wiki, voilà, il y a GitHub aussi. On participe effectivement. Alors pour ma part, moi j'ai participé à l'évolution de certaines choses. Ou alors, quand on n'est pas féru Linux, puisque effectivement, Jean-Marc a raison, moi, avant 2017, je ne savais pas faire un apt get update. Je ne savais pas ce que c'était.
T'as plus
Donc,
besoin de mettre,
moi, lorsqu'il m'a dit,
t'as plus
je vais
besoin de mettre
mettre,
apt get, hein, tu fais apt tout court.
Il faut savoir que Ben, lorsqu'il m'a dit, je vais mettre Jesse, je fais, mais c'est qui?
Mais oui, au début, c'est ça.
On explique Jessie, c'est une version de Debian. Voilà, c'est une stable release de Debian.
Voilà, exactement. Bon, après, au niveau du développement, bien évidemment, ça arrive petit à petit. Il y a des choses qu'on peut arriver à voir. Mais participer à des tests, oui, bien évidemment. Notamment, tu parlais tout à l'heure de est-ce que 80 kilos, est-ce que pour l'audio, c'est bien ou pas? Dernièrement, on a participé à des tests, on a fait des tests justement pour l'évolution de l'envoi des données associées. Quand les radios, les éditeurs remplissent les dossiers où on leur demande est-ce que c'est bien 80 kilos en audio et 8 kilos en données associées, c'est un dossier générique qui vous est donné. Aujourd'hui, les données associées peuvent transiter dans les 88 kilos qui sont la norme, mais de manière dynamique. La qualité audio va dépendre des données associées que vous envoyez. Voilà. Si vous envoyez uniquement un logo en dimension 320 par 240, avec un poids de 10 kilos, une photo, un logo de la radio, avec un flux audio correct, eh bien, au niveau des données associées, il y aura que ça qui passera dans le flux en DAB+. Maintenant, après, si vous envoyez beaucoup de photos, des pochettes, c'est au détriment de la qualité audio. Ça peut se ressentir. Voilà. Donc ça, c'est du travail qui est fait en ce sens pour améliorer tout ça. Et aussi, ce qui est les tests qui sont faits actuellement, c'est aussi de dire. Donc, tu parlais, tu disais, ah oui, on parle de compression. Donc, c'est de dire que à terme, à venir, ça existe déjà, hein, mais ça peut être amélioré. De dire, voilà, on a un codeur DAB+ directement dans son studio, sans pour autant parler d'un codec Icecast qui envoie vers un serveur de stream. Maintenant, il y a des expérimentations de codeurs DAB+ qui sont faits toujours en EDI, hein, donc en capsulation DAB interface, hein, voilà, en EDI, directement depuis le studio. Mais voilà, après, il y a une notion de, on envoie en UDP, voilà, après, c'est une notion réseau. C'est ça aussi, c'est la nouveauté, parce que autant pour pour la FM, entre guillemets, on peut envoyer en faisceau hertzien, on peut, voilà, en DAB+, beaucoup d'installations DAB+ sont tributaires du réseau Internet. Donc, ADSL, SDSL, fibre, voilà. Après, il y a des nouveaux termes pour les éditeurs. FTTLA, FTTH, toutes ces choses-là, voilà. Maintenant, c'est des nouveaux paramètres pour les éditeurs, quoi. Alors, c'est super intéressant, hein, bien sûr. Mais voilà, si un jour vous entendez parler de FTTLA ou FTTH ou de fibre, ben, vous penserez à moi. Voilà.
Je tenais juste à dire un truc et à préciser quelque chose concernant la qualité sonore. C'est vrai que pour les mélomanes, rien ne vaut la bonne platine vinyle, le son analogique ou autre, ou alors un son du moins linéarisé par rapport à un son qui est compressé, notamment un MP3 ou un AC. Mais il faut quand même se poser une question. Qu'est devenue la qualité sonore en FM de nos jours?
J'allais venir, c'est une question beaucoup plus loin, mais on n'a fait que la moitié des questions et le temps est passé. Mais effectivement, c'est une bonne parce que on a fait des tests, hein, donc j'ai fait mes tests SDR, j'ai acheté une clé TNT USB à 15 € avec une petite antenne, ça coûte vraiment rien. À maîtriser le logiciel Cubic SDR ou DR Strangelove ou tout ça, c'est pas si compliqué que ça finalement à manipuler. Et les petits émetteurs de voiture pour mettre le son de son smartphone sur l'autoradio par la FM, qu'on s'est autorisé mais à une très faible puissance, et la très très mauvaise surprise, c'est que non seulement ça bave sur toute la bande FM, mais en plus ça brouille bien jusqu'à 200 mètres une réception normale. Pourtant, dans des trucs qui sont homologués. Et effectivement, tu as raison, la bande FM est de moins en moins propre. Après, on a eu un plésioclimax, un maximum de qualité de réception. Faut pas oublier que dans les années 90, on souffrait tous pas mal. Enfin, toi, tu t'en fiches, t'es à la campagne, mec. Mais nous, ici à Toulouse, c'était une horreur. On avait des brouillages à tire-larigot, surtout quand tu as une petite radio sans vraiment beaucoup de puissance, sans beaucoup de maîtrise non plus avec l'émetteur.
Je ne parle pas trop au niveau sonore des parasites et du fait que la bande FM soit assez saturée.
Tu parles la guerre de la compression ?
Exactement, c'est-à-dire la puissance PMUX.
C'était la deuxième émission, mec, de la série sur le son numérique. J'ai fait des démos, et puis je me suis fait chier à bien toutes les tester. On va essayer de répondre maintenant, à partir de maintenant, si possible, en 5 minutes, pas plus quand même, à chacune des questions, je vais même dire 2 pour la suivante. Mais alors pourquoi ni TDF, ni Towercast, ni la coop n'ont regardé la transmission DAB+ en logiciel libre ?
Alors, je ne pense pas pour que la coop radio, je pense qu'ils regardent ça, et je pense qu'ils peuvent la regarder. Ensuite, TDF et Towercast vont toujours aller sur des solutions professionnelles. Donc, ils ne vont pas utiliser l'open source.
Il faudrait qu'ils se méfient quand même. Apache et Nginx, c'est de l'open source.
Oui, exactement. Parce qu'il y a certaines solutions professionnelles, il faut savoir que si vous grattez un tout petit peu derrière, il y a de l'open source.
Mais il y a peu de contributions, et ne serait-ce que les retours de contributions financières. N'oubliez pas de donner au logiciel libre. En FM, on a des traitements sonores qui sont impératifs en entrée d'émetteur, notamment un filtre passe-bas à 15 kHz. Et on a aussi un outil qui évite que les canaux gauche et droite aient une phase inversée, parce que sinon, je vous dis pas le bordel que c'est. À la limite, on risque presque un Big Bang si on essaie d'émettre ça en FM, en stéréo. Est-ce que ces traitements de son sont toujours utiles en DAB+, ou est-ce qu'il faut aussi mettre d'autres traitements de son derrière, outre la compression dans le codec?
Alors, juste rapidement, je vais le faire très très rapide, ensuite je laisserai à Ben. Oui, il faut quand même traiter le son, il faut que la radio ait sa couleur sonore. Il faut créer une couleur sonore. Mais
ça, je parle en dehors justement de la partie cosmétique, je parle vraiment sur le niveau technique.
Franchement, ce n'est pas nécessaire. On pourrait utiliser un son bas ou autre, mais le côté esthétique impose qu'il y ait quand même un traitement de son derrière.
Éphémère, on le fait en renversant la bière dans la table de mixage toute neuve. C'est pas un secret. Ben, j'ai comme équipe qui est mort de rire.
Pardon. Non, ça arrive. Ça arrive souvent, d'ailleurs.
Oui, je sais.
Pas
je sais. Non. J'ai toujours la batte à clous derrière.
Bon, il faut savoir une chose. Par rapport aux différents prestataires qui fournissent des prestations, soit de collecte pour la diffusion en DAB+, il y en a, donc je ne vais pas citer parce que voilà, c'est pas le but, mais effectivement, beaucoup utilisent une solution libre et se l'adaptent, se l'approprient. Voilà. Et après, on fait sa propre solution. C'est-à-dire que je peux me tromper, mais je pense qu'au départ, beaucoup de prestataires ont déjà. Partent du libre déjà, de ce qui existe déjà. Voilà. Et se l'approprie comment ? Soit en renforçant la partie collecte de flux, soit en renforçant la partie supervision. Il y a différentes choses qui sont en plus. On parle par exemple sur Toulouse. Bien évidemment, il y a un flux principal, donc le schéma que j'ai. Qu'on a parlé tout ensemble, mais aussi il y a des opportunités d'avoir des flux de secours qui peuvent être poussés vers le multiplex, ou alors qu'on peut récupérer dans notre radio. Il y a aussi des playlists de secours. Enfin, on parlait que beaucoup d'installations étaient tributaires d'Internet. On est aussi tributaire, malheureusement, il peut y avoir un coup de pelle dans la fibre et puis il n'y a plus Internet. Donc, avant que le système 4G que nous disposons et qui fonctionne très bien, avec notre prestataire qui est aussi alternatif, qui est un prestataire local Alors, est-ce qu'on peut citer...
Tu peux, vas-y.
Ouais, qui est ProSolus.
D'accord. Donc,
notre partenaire, ProSolus, qui a des solutions et au niveau uniquement pour les professionnels.
Voilà, il y a d'autres opérateurs hein, qui font ce genre de prestations. Il y a notamment FullSave, il y a OVH, il y a SFR Business et Orange Business où on peut demander par exemple un débit internet garanti.
C'est très bien, vous avez cité plus de 3 marques différentes, le CSA sera content.
Oui. Bon, alors voilà.
La semaine prochaine, je vais enregistrer chez eux, hein, Coco.
Non, mais c'est vrai que pour nous, voilà, chez Comequipe, nous, c'est la partie GTR, hein, c'est la partie. Voilà, il y a un problème. Quand on va nous appeler, il va falloir que ça soit dépanné rapidement. Alors, si c'est un problème HF, un problème réseau ou un problème de collecte de flux, bon, il faut que ça soit réglé très, très, très rapidement. Donc voilà, on a fait le choix de travailler avec des partenaires, avec nos partenaires et notamment donc un partenaire local pour la fourniture de la fibre. Et donc voilà, ça c'est pour cette partie-là. Ensuite, pour la partie traitement de son, pour l'AFM, hein, comme disait Jean-Marc, bien évidemment, quand on en a parlé tout à l'heure, on parlait d'excursion de 75 kilos, mais après on va parler de PMUX, donc de DBR, et on peut très bien être à 60, une radio peut très bien être à 75 kilos et être une PMUX très importante. En DAB+, c'est pas forcément de PMUX qu'on va parler. On va dire, pour rester simple, on va dire que si on envoie trop fort, un son trop fort ou trop compressé, on va parler d'artefact. Un traitement de son, oui, en DAB+, pour la couleur de la radio, oui, c'est important, bien sûr, puisque bien évidemment, comme on est 13 radios sur une même un même multiplex, il peut y avoir des radios qui soient plus fortes que d'autres, puisqu'il y en a qui peuvent envoyer leur son avec ou sans traitement. Maintenant, après, nous, pour le son qui est envoyé, on va parler de DBFS. Mmh. Et on va se trouver entre moins 3 et 6 DBFS. Voilà. Donc, après, un traitement de son DAB+, comme c'est du numérique, ça n'a pas besoin d'être traité comme de l'AFM. Alors, c'est vrai qu'en AFM, on aurait tendance à dire que certaines radios envoient de la bouillie. Voilà. En DAB+, il ne faut pas faire ça. Après, nous, on a des appareils qui permettent de régler, hein, bien évidemment, toutes ces choses-là. Et on a des traitements de son qui permettent autant de traiter de l'AFM que le DAB+, chez nous, chez Comequipe. Hein. En DAB+, il faut traiter gentiment.
Et en raison des artefacts, le son bourrin n'a pas lieu d'être en DAB+.
Benoît, je tiens de suite à me porter en faux. On n'envoie pas de la bouillie. On dit juste que le DJ qui envoie du dub ce soir-là avait pas vu que les vue-mètres étaient coincés dans le rouge. Nous revenons après cette publicité pour les écouteurs en braille. CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes avec Jean-Marc Courage-Sénac, spécialiste DAB+, pour l'ARA, l'association régionale des radios associatives, et Benoît Père-Guilhem, responsable DAB+, chez Comequipe, pour le lancement de FMR sur la radio numérique hertzienne. En FM, si le signal est faible, on entend quand même le programme, mais avec un bruit de fond statique de plus en plus audible. Ensuite, on va perdre la stéréo avant que le son s'efface dans ce bruit blanc intercosmique et finalement le poste ne peut rien diffuser. Le DAB+, va lui décrocher complètement. À puissance équivalente, il est plus facile de capter la FM ou le DAB+, à puissance équivalente d'émetteur.
Alors, il y a plusieurs paramètres, et en fait, à prendre en compte, c'est que au niveau du DAB+, ce sont des fréquences beaucoup plus hautes, beaucoup plus élevées. Donc, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à rentrer dans les murs.
Ouais, on passe de 88 à 108, on passe à 170 à 200 MHz.
De 174 jusqu'à 223 MHz en France.
Ouais, je connais pas ma table par
cœur. La bande 3 en DAB+, peut monter jusqu'à 230, voire 240 MHz dans d'autres pays. D'où aussi la possibilité de retrouver d'autres ressources pour dire d'autres radios sur d'autres multiplex. Il faut savoir que la puissance, donc pour retrouver cette écoute indoor, la puissance en DAB+ va être plus importante que celle en FM. Ensuite, il y a quelque chose qui pour moi est primordial. Le DAB+, de toute façon, c'est tout ou rien. C'est soit la radio, elle passe et vous entendez le son, la musique ou les émissions parlées, soit il n'y a rien du tout. En FM, oui, il y a une dégradation progressive au fur et à mesure, et on peut même faire du DX, essayer de capter très très loin des émissions et essayer de voir avec même des faibles puissances aller le plus loin possible.
On a un record. On nous a capté en Suède. Hein.
Oui, oui. Alors ça, c'est un autre phénomène. C'est un autre phénomène. Ça, c'est
phénomène propagation
atmosphérique.
On va pas y aller plus loin. Ouais.
Voilà, c'est un tout petit peu plus complexe.
Mais en gros, il est plus facile. À puissance équivalente de capter, enfin à puissance équivalente perçue à un endroit, de capter la FM ou le DAB+.
Par rapport à l'expérience que j'ai, je dirais la FM.
Est-ce que c'est pour ça que l'émetteur du bouquet local Toulouse, où est situé FMR, sera à 6 kW de puissance, soit un pas plus que les puissances autorisées pour les très grosses radios commerciales, qui est de 5 kW maxi en FM?
Les autorisations, les premières autorisations en DAB+, on a vu que les puissances apparentes rayonnées étaient vraiment plus importantes que celles pratiquées normalement en FM. Donc, et c'est aussi et surtout par rapport à une valeur de seuil minimale qui est imposée par le CSA et sur le déploiement ensuite progressif du DAB+, hein, il y a un seuil minimal à atteindre pour en revenir à ça. Et par rapport à l'écoute indoor, oui, il faut envoyer plus de puissance.
Bon, la plupart des radios, ça va pas être le cas pour FMR, puisque nous, on est en fréquence partagée sur FM, et la plupart des radios, en fait, que vous écoutez en DAB+, si elles font le simulcast en FM, si jamais il y a un problème de réception en DAB+, en général, le poste va en FM, et de ce que j'ai cru comprendre, d'ailleurs, elles revenaient rarement vers le DAB+, si le signal cessait. Alors, ça tombe bien, hein, j'ai des postes double standard à pas cher, vraiment pas cher. Il y a juste un problème, c'est que... Ça émet pas en DAB+, au moment où on enregistre, j'ai pas pu faire les tests pour voir justement les retours.
C'est comment ça bascule, c'est ça en fait, oui, en FM et DAB+. Ça dépend des récepteurs. Moi, j'écoute beaucoup le DAB+, lorsque je suis sur Marseille particulièrement, où là, ça bascule très souvent entre la FM et le DAB. Mais avant, il a fallu quand même que je choisisse la radio en DAB pour qu'elle puisse basculer en FM et revenir par la suite en DAB+.
Voilà, on se fait gronder, en fait, on explique très rapidement les dessous, ce qu'on enregistre le soir, c'est... Donc il va avoir le confinement, mais surtout il va avoir le discours de notre grand président qui va nous dire, hop, on remet tout le monde sous clé. On va aller vite dans ce cas-là pour les dernières questions.
Oui, parce que du coup, j'ai pas répondu à certaines questions, mais...
On est obligé de faire vite pour le coup.
En DAB+,
on peut avoir plusieurs émetteurs sur un même bouquet, sur une même fréquence. C'est le cas du bouquet local étendu de Toulouse, sur lequel FMR n'est pas, qui émettra à la même fréquence depuis Pêche David et Montauban. Alors, comment ça marche? Parce qu'on avait à peu près cette technologie, mais en onde moyenne dans les années 30. En FM, il n'y a que la radio d'autoroute qui fait ça en 107.7, mais parce que c'est linéaire, c'est assez particulier. Et en DAB+, comment on fait? On s'installe n'importe comment et les émetteurs discutent entre eux pour se synchroniser?
C'est la magie du numérique que va expliquer Ben. Juste un petit truc, un petit détail. Il n'y avait pas véritablement dans les années 30 de d'isofréquence en onde moyenne. C'est venu par la suite. Il y avait tout un maillage du territoire avec des fréquences qui étaient, c'est vrai, réutilisées, mais quand même sur des sites de diffusion qui étaient quand même assez éloignés où il n'y avait pas de brouillage possible. La première expérience en isofréquence en onde moyenne, elle s'est déroulée dans la région avec Sud Radio lorsqu'ils ont quitté le Pic Blanc en Andorre pour arriver sur le site de Toulouse-Gorée, où il y avait trois sites en fait pour retrouver cette couverture-là. Au début, Sud Radio a émis depuis Muret en piratant entre guillemets l'émetteur de
France Inter.
De France Inter sur le 1161 kHz à l'époque. Ils émettaient eux sur le 819, ils ont réémis quelques temps après du côté du Pic Blanc. Et puis ils ont créé trois sites de diffusion à Toulouse-Gorée, juste à côté de chez moi, à Tarbes-Séron et aussi à Bordeaux-Arveyre. Et ces trois sites qui diffusaient sur le 819 kHz étaient pilotés, il y avait un pilotage au rubidium qui était fait à l'époque. Et même il y avait, c'était des antennes parapluies qui avaient été créées avec un émetteur de marque Marconi, et ça avait assez gueulé puisque à l'époque Sud Radio appartenait à la Sofira, donc une entreprise d'État, et on essayait à tout prix de fourguer des émetteurs en ondes moyennes de la marque Thomson, qui était française donc à l'époque. Et donc ça avait un tout petit peu gueulé à cette époque. Ces trois émetteurs donc en pilotage rubidium sur le 819 kHz. Et pour le DAB+, il y a le SFN, et là c'est Benoît qui va en parler.
En parler très simplement, sur une zone où il y a plusieurs émetteurs en DAB+, on a besoin d'une synchronisation horaire. Synchronisation horaire, pourquoi ? Parce que en fait, quand on a un multiplex qui envoie un flux EDI sur plusieurs émetteurs, à l'intérieur des paquets IP qui est envoyé, il y a une notion d'horodatage. Donc l'horodatage est encapsulé. Si tous les émetteurs ne sont pas à la même heure, eh ben il y a, c'est comme les trains, quand ça arrive en retard, eh ben c'est pas bon.
Et c'est une précision de combien ? C'est pas à la seconde là ? On est en dessous. On est à la milliseconde.
On est en dessous. À la milliseconde. Oui, oui, on est à la milliseconde.
Mmh. Alors, c'est pour ça que tu nous as mis un récepteur GPS dans le devis ?
Exactement. Pour l'instant. Après, peut-être qu'il y en aura un deuxième. Mmh. On ne sait pas. Mais parce que c'est très intéressant ce qu'on dit. Parce qu'on pourrait très bien... Là, on parle d'un multiplex étendu, donc avec plusieurs émetteurs. Mais on pourrait très bien parler d'un multiplex local avec plusieurs émetteurs. Donc aujourd'hui, c'est la zone de Toulouse avec un objectif de couverture. Donc tu parlais de puissance apparente rayonnée. Aujourd'hui, tu as annoncé un chiffre de 6. Aujourd'hui, on est en dessous, puisque l'objectif de couverture, c'est un certain pourcentage. Maintenant, demain, le multiplex local de Toulouse, avec les 13 éditeurs, s'ils sont en accord et s'il y a un appel à candidature pour aller vers Muret, par exemple, ou plus bas.
Je crois que Muret est dans notre zone de couverture.
Tout ça, c'est calculer la zone de couverture entre l'indice INSEE et effectivement la population à couvrir.
Vu les tests d'ailleurs, Muret, ça passe. Hein. J'ai testé en voiture.
et oui, moi aussi, j'avais un petit récepteur dans la voiture, ça fonctionne. Donc voilà, donc peut-être un petit peu plus bas, si un jour les 13 éditeurs sont d'accord pour aller un petit peu plus bas. Donc il faudra un deuxième émetteur. Donc là, il faudra obligatoirement une synchronisation des deux émetteurs et donc du multiplex qui enverra le flux aux deux émetteurs pour éviter le décrochage, puisque là on parle bien de deux émetteurs qui sont sur la même fréquence. Voyez, c'est sur la même fréquence.
Mmh. Oui, tout à fait, c'est la grande particularité. Il y aura 5 multiplex donc sur la bande VHF 3, si je me trompe. Combien on pourrait en caser sans trop se marcher sur les pieds?
Alors, je vais juste vous parler de l'expérience que j'ai eue, moi, lorsque je me suis déplacé en Alsace, où on recevait les radios donc du multiplex français, où il y avait que 39 radios. Hein. Mmh. Il y avait les radios des allemandes, et il y avait les radios suisses aussi que l'on recevait. Au total,
c'était du côté de Mulhouse, c'est ça ?
Oui, exactement, du côté de Mulhouse. 161 radios.
Waouh !
Voilà.
Oui, parce que il faut expliquer qu'en Suisse, ils ont coupé la FM, donc toutes les radios maintenant passent en DAB+, puisqu'il y a même plus d'ondes moyennes là-bas. Et en Allemagne, ils sont à fond sur le DAB depuis la fin des années 90, pendant qu'en France, on s'embêtait avec un format qui s'appelait le DMBT. Et j'en ai des souvenirs assez navrants de cette histoire.
Le TDMB, il faut savoir, c'est un leurre.
Oui, je sais.
Agité pour retarder justement l'arrivée de la radio numérique et pour certains grands groupes radiophoniques, bien évidemment, empêcher l'arrivée d'une nouvelle concurrence.
Ah, moi, je me souviens de la présentation aux grands syndicats de radio et aux grands opérateurs de radio. Et j'y étais et il y avait le CSA et on était en 2005 et je leur ai dit, excusez-moi, mais primo, pourquoi on n'envoie pas les radios aussi sur la TNT ? Parce qu'on a un bouton radio sur 2 millions de récepteurs déjà installés en France et c'est ce qui se fait en Angleterre, en Allemagne. Et à l'époque, ils étaient tout fiers de nous montrer des radios qui recevaient la radio par Wi-Fi. Je leur ai dit, c'est vachement pratique quand on se bouge. Et le TDMB, d'ailleurs, je me souviens bien, avait une bande passante assez catastrophique. C'est un gâchis monumental de surencapsulage. C'est une catastrophe.
Et de mémoire, il y avait la moitié moins de radios sur un allotissement.
Oui, et on... c'était un quart par rapport, c'était pas 13 radios, c'était 4 radios maxi qu'on pouvait passer, parce qu'en plus c'était l'ancien codec, et en plus c'était un codec, dans une encapsulation, c'était absolument lamentable. Jean-Marc Courrèges-Sénac, merci beaucoup. Benoît Père-Guilhem, merci beaucoup de votre disponibilité, parce que là on enregistre en fait une semaine avant le lancement sur Toulouse du numérique, et vous avez tous les deux fort à faire de votre côté pour cela. Et en plus, eh ben, donc, on est le soir où peut-être on va nous annoncer donc, un reconfinement, donc je vous libère parce que vous allez devoir galoper, et moi aussi. Merci à vous deux.
Merci.
Merci.
Merci à FMR.
Merci FMR.